Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Comment est née l'Union européenne ? Comment en est-on arrivé là, ce désastre ? Y a-t-il moyen d'en sortir ? L'Union européenne, telle qu'elle s'est faite, c'est un désastre, à tout point de vue, dans tous les domaines. Je vois pas très très bien ce que cette Europe a apporté à la France, en tout cas.
Salut les amis, c'est le moment où on se retrouve avec les copains profs d'histoire géo autour de notre mensuel préféré, le monde diplomatique. Salut Philippe.
Bonjour.
Bonjour Daniel.
Bonjour à tout le monde.
Salut André.
Salut et fraternité.
Quelle perspective offre l'histoire sur les événements présents ? Une des choses qui nous est répétée depuis des décennies, c'est l'Europe, c'est la garantie de la paix. L'Europe, c'est la paix. Et l'Europe est en guerre. Alors comment en est-on arrivé là ? L'Europe, c'est la paix, ou bien l'Europe, ça peut être aussi le choix de la guerre ? C'est la paix qui a permis la construction européenne, de 1947 à 1992. La paix, issue de la victoire de 1945 sur le nazisme par les alliés occidentaux et l'Union soviétique. Et cette paix, après 1945, donne les conditions de la construction européenne. Cette construction européenne est une entreprise menée par l'Europe occidentale, essentiellement dirigée contre le bloc soviétique, sous la direction des États-Unis. 1947, le plan Marshall. 1952, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et en 1957, le traité de Rome, qui fonde ce qu'on appelait couramment le marché commun, la Communauté économique européenne, à 6, hein, c'est-à-dire la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et les pays du Benelux, c'est-à-dire Pays-Bas, Belgique et Grand-Duché du Luxembourg. Deuxième remarque, de 1958, lorsque la Communauté économique européenne rentre dans les faits, à 1989, le marché commun alterne entre tensions et détentes avec le bloc soviétique. Mais il y a une sorte de règle, chacun des deux blocs, tout en protestant, n'intervient pas dans l'espace de l'autre, dans la chasse gardée de l'autre. Pas de conflit armé entre l'Europe de l'Ouest, l'Europe du marché commun et les États-Unis, et l'Europe centrale, les démocraties populaires et l'Union soviétique. Néanmoins, dans cette période, la communauté économique européenne s'élargit progressivement, mais à un rythme assez lent. En 1973, c'est l'entrée du Danemark dans le marché commun. 1979, c'est l'entrée de la Grèce. 1986, l'Espagne et le Portugal. Troisième observation, c'est l'implosion du bloc communiste qui entraîne l'extension à l'Est à la fois de l'Union européenne qui se crée à ce moment-là et de l'OTAN, de 89 à nos jours. 89, la chute du mur. 90, la réunification de l'Allemagne, c'est-à-dire que la RDA est absorbée et entre de facto à la fois dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est à ce moment-là qu'on assiste à la disparition à la fois du bloc soviétique et du bloc yougoslave en 91. La Slovénie et la Croatie, qui étaient des républiques de la Fédération yougoslave, en 91 proclament leur indépendance et immédiatement les pays occidentaux reconnaissent leur indépendance, ouvrant la voie de la guerre civile, et en particulier en tête du mouvement l'Allemagne et l'Autriche. On voit bien les règlements de compte historiques qui remontent à plus loin. Et puis, le 25 décembre 1991, c'est la démission de Gorbatchev et la dissolution de l'Union soviétique. C'est dans ces circonstances-là que se fonde l'Union européenne, 92-93. En 92, signature du fameux traité de Maastricht, qui est le traité fondateur de l'Union européenne. Et le 1er novembre 1993, c'est la création de l'Union européenne. Et c'est dans ces conditions-là qu'on assiste, quatrième observation, le retour des guerres sur le sol européen, en même temps que de nouveaux élargissements. 95, la guerre de Bosnie, et la même année, entrée dans l'Union européenne de la Suède, de la Finlande et de l'Autriche. 99, la guerre de Serbie, l'OTAN bombarde la Serbie pour faire chuter le régime nationaliste serbe et détacher le Kosovo de la République serbe, ce qui est toujours la situation. Et au début des années 2000, l'ensemble des ex-démocraties populaires et trois républiques ex-soviétiques, les États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, à leur tour, entrent d'abord dans l'OTAN, malgré les promesses qui auraient été faites à Gorbatchev à l'époque par les États-Unis pour le fait que l'OTAN ne progressait pas vers l'Est.
Pas un pas de plus à l'Est. C'était une promesse formelle des Occidentaux.
Voilà, les États baltes entrent dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Ce sont d'anciennes républiques soviétiques. Si bien qu'au début des années 2000, la République fédérative de Russie se trouve cernée par les alliés des États-Unis et l'OTAN, et se trouve, de son point de vue, menacée. La décennie des années 90, qui voit un dynamisme de l'Union européenne, voit du côté de la Russie un effondrement. C'est la décennie des années Yeltsin, où tout part à volo, l'État, etc. Il y a une libéralisation à tout craint, et les capitaux, les financiers, les oligarques occidentaux s'emparent d'une bonne partie de l'économie russe.
Que n'a-t-on dit des Russes dans les années 90? Alors déjà, ils étaient gouvernés par l'alcoolique Yeltsin qui faisait des blagues avec Clinton. Les entreprises russes étaient bradées à l'Occident pour le rouble symbolique. On a traîné ces gens-là dans la boue. Ils avaient tout faux. Haha, vous avez choisi le communisme, c'est bien fait pour vous. Sur le plan intérieur, les fonctionnaires n'étaient plus payés. Ce qui peut expliquer de fil en aiguille que d'un seul coup, t'as un type qui arrive, qui bombe le torse, qui se remet à payer les salaires des fonctionnaires et à redonner. Alors, je ne suis pas russe. Mais si on fait un peu l'effort de voir le monde depuis la fenêtre de certains nationalistes, ces gens ont été humiliés et vilain Poutine leur a redonné un peu de dignité et de sécurité. Et puis tout simplement, réarmer les services publics en payant les fonctionnaires. Mais je voulais insister sur ce truc qui a un peu échappé aux gens, c'est qu'on s'est foutu de la gueule des Russes pendant 10 ans, pendant toutes les années 90. Ils avaient perdu, c'était les nuls de l'histoire, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, on paye aussi ce retour de foutage de gueule.
Alors aujourd'hui, ils font beaucoup moins rire, apparemment, qu'à l'époque. Et donc, le renversement de la situation, c'est 2000. L'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, d'abord comme premier ministre d'Eltsine, puis élu président, 2000. Hein. À partir de ce moment-là, une vingtaine d'années, l'affrontement entre le monde occidental et la Russie va se concentrer sur l'Ukraine. 2004, c'est la révolution orange. C'est une révolution pro-occidentale, largement aidée, financée, organisée par les États-Unis. 2004. 2014, deuxième révolution pro-occidentale, la révolution dite de Maïdan. Qu'est-ce qui provoque la révolution de Maïdan? Le président ukrainien pro-russe refuse d'accepter le traité d'association de l'Ukraine avec l'Union européenne. Il refuse de signer le traité. Et dans ce traité d'association avec l'Union européenne, outre les accords économiques, culturels, etc., etc., il y avait la remise en cause de la location des ports de Crimée par la flotte russe. Et la réponse de la Russie, de Vladimir Poutine, à la révolution de Maïdan, va être assez claire et assez rapide. Cette révolution de Maïdan, au mois de février 2014, est largement organisée par la sous-secrétaire d'État du président Obama, Victoria Nuland. Donc, face à cette révolution de Maïdan, la partie est de l'Ukraine, ce qu'on appelle le Donbass, majoritairement peuplée de russophones, favorable à un rattachement ou au moins à une autonomie, entre en sécession par rapport à Kiev. Et, sans coup férir, la Russie, Vladimir Poutine, réannexe la Crimée. Annexe, je dis réannexe, parce que la Crimée était russe depuis très longtemps. Enfin, elle a été donnée à l'Ukraine par Khrouchtchev en 1954. Il n'imaginait pas en 1954 que la Fédération soviétique pouvait exploser, éclater. Et donc voilà, sécession du Donbass, annexion ou réannexion de la Crimée par Moscou.
Cet accès des Russes à la mer Noire est absolument vital. Philippe a souvent fait des exposés sur le sentiment obsidional de la Russie. À l'Est, ils ont Vladivostok. au nord, une mer qui est gelée la moitié du temps. Ces gens ont le sentiment d'être cernés, mais ils le sont.
Voilà, obsidional, c'est-à-dire qu'ils se sentent en état de siège. Ce qui est quand même objectivement pas tout à fait faux. Voilà. Alors, pour détendre les relations entre Moscou et les pays occidentaux, sont signés en septembre 2014 les accords de Minsk, une médiation de l'Allemagne et de la France, l'Allemagne de Merkel, la France Hollande, qui permettait de reconnaître une certaine autonomie du Donbass plutôt qu'une sécession, etc. Ces accords de Minsk n'ont jamais été appliqués, et principalement, ils n'ont jamais été appliqués par Kiev. Et récemment, Madame Merkel, qui est maintenant à la retraite, a déclaré que de toute façon, les accords de Minsk, il ne fallait pas les prendre au sérieux, c'était pour faire attendre Moscou et la Russie, en attendant qu'on arme l'Ukraine pour lutter contre l'influence russe. C'est bien ce qui va se passer. Les Occidentaux, entre 2014 et 2022, le début de la guerre d'aujourd'hui, arment, installent des bases qui sont intitulées Centre international pour la sécurité et la paix. Ce sont des bases, en fait, de l'OTAN sur le territoire ukrainien, principalement avec des militaires américains, états-uniens, canadiens et britanniques.
Jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine, Poutine a quand même dit aux Occidentaux pendant 20 ans, écoutez, nous, la Russie, on veut bien participer à la mondialisation heureuse, au capitalisme génial. Alors, regardez, comme Khrouchtchev, je vais aux États-Unis, je visite des ranchs et je me mets des chapeaux de cow-boy tellement j'aime l'Amérique. On vous aide à traquer Ben Laden, tout ce que vous voulez, mais vous venez pas mettre de missiles de l'OTAN sur la frontière de la Russie. Tout ce que vous voulez, sauf l'OTAN à ma frontière.
Ces accords de Minsk jamais appliqués vont créer cette situation équivoque pendant 8 ans, entre 2014 et 2022, on y arrive. Et pendant 8 ans, Kiev bombarde le Donbass, on a tenté de regarder ailleurs. Il semblerait que ça ait fait environ 13 000 morts dans la population russophone du Donbass. 13 000 morts. Mais ça passe sous les radars des commentateurs, des journalistes, etc. Si bien que face à cette situation, d'une manière assez surprenante, le 24 février 2022, c'est la fameuse opération spéciale, c'est-à-dire l'intervention de l'armée russe sur le territoire ukrainien, un pays indépendant, et c'est une invasion. Ça aboutit dès 2023 à l'annexion du Donbass. Depuis ce moment-là, on est dans une sorte de guerre de position entre la Russie et l'Ukraine, extraordinairement consommatrice en hommes, en munitions, et dévastatrice du pays et des populations. Cette guerre de position, d'une part, la Russie est soutenue directement par la Corée du Nord pour l'alimentation en munitions, soutenue d'une autre manière par la Chine. L'immense majorité de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, ce qu'on appelait avant le tiers-monde, est plutôt favorable à Moscou. Et l'Ukraine est soutenue par les pays occidentaux, en tête les États-Unis, l'Union européenne, bien sûr la Grande-Bretagne, mais aussi le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Résultat, au début de l'année 2024, après un échec d'une tentative de contre-offensive ukrainienne, on se trouve dans un point critique, à la fois critique et inquiétant. L'Union européenne est engagée à fond dans cette guerre. Les Anglo-Saxons, l'Angleterre moins allante et les États-Unis moins allants aussi quand même. La France, avec Emmanuel Macron, s'improvise leader du monde occidental des pays de l'Union européenne et parle d'intervention sur le terrain, de troupes occidentales, de troupes françaises en coalition avec d'autres pays de l'Union européenne. On est dans une situation extraordinairement dangereuse. Et du côté de Moscou comme du côté de Paris, on rappelle que dans les deux cas, on a l'arme nucléaire. Depuis Hiroshima, jamais une situation pareille ne s'était produite. Même pas lors de la crise de Cuba, hein. Il y avait un risque nucléaire, mais ni les États-Unis ni l'Union soviétique n'ont brandi la menace. Un risque d'affrontement global qui est sans doute le plus fort depuis 1945, et non seulement d'un affrontement global sur le territoire de l'Europe, mais avec un risque nucléaire. On peut se demander si l'Union européenne, l'Europe, comme on dit, n'a pas finalement poussé à faire la guerre au fil des décennies, en progressant toujours, repoussant toujours plus loin vers l'Est les limites, rejetant la Russie dans la taïga et prétendant assimiler l'Union européenne, l'Ukraine. Le tournant de confrontation se fait en 81-92 avec l'extension continue à la fois de l'OTAN et de l'Union européenne dans les Balkans et dans l'Europe orientale et balkanique, les pays baltes, du côté de la Russie. La Russie a tenté à trois reprises de mener un coup d'arrêt. En 2008 en Géorgie, en 2014 l'annexion de la Crimée et en 2022 la fameuse opération spéciale de Moscou qui est en fait une invasion de son voisin. Voilà. Est-on aujourd'hui arrivé à un point limite avec un conflit possible sur le plan général et nucléaire? C'est la question. Voilà une guerre d'Ukraine qui vient de loin, plus de 30 ans. Espérons qu'elle n'aille pas trop loin.
Il y a un truc qui me terrifie, les amis, c'est à quel point les propagandes guerrières, notamment françaises, occidentales, rentrent dans certaines têtes, et même des têtes qui ont lu des livres, qui ont des diplômes et machin, mais qui répètent de la propagande belliciste stupide. On ne se croirait pas dans les années 30, mais en 1914. Friction inter-impérialiste. On s'interroge régulièrement à quoi sert cette science humaine qui s'appelle l'histoire. La dernière fois qu'on nous a fait le coup de « Hé les gars, il y a un truc à l'Est qui ne nous concerne pas, mais il faut qu'on y aille. Hein, il y a un archiduc qui s'est fait dessouder par là-bas, mais ce n'est pas notre affaire, mais c'est quand même notre affaire, allons-y. » 4 ans plus tard, 1,5 million de morts sur le champ de bataille, 1 million de veuves, je ne sais pas combien d'orphelins. Voilà ce que nous a coûté 14-18. Et là, on nous refait le coup. Les attitudes va-t-en-guerre et torse bombé débile de Macron sont extrêmement dangereuses. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'envoyer des troupes au sol? On n'en a pas. L'armée française, c'est quoi? 200 000 personnes sur le terrain. En infanterie, on peut développer quoi? Au maximum, en gros, 30 à 40 000 fantassins, hommes et femmes. C'est complètement ridicule. Du temps de Gaulle, ça se serait jamais passé, mais Sarkozy a fait des pieds et des mains pour que la France redevienne le toutou des Américains. Donc on est rentré dans l'OTAN en 2007. Non pas que je sois un nostalgique de Gaulle. C'est complètement négligé aussi ce qu'est la stratégie de la France. La France n'a aussi peut traquer quelques rebelles au fond du Mali avec des drones et faire des trucs comme ça. Mais une vraie guerre conventionnelle face à un ennemi type la Russie, c'est juste complètement improbable. En fait, il n'y a ni les moyens humains et matériels de faire la guerre. Et puis de toute façon, ce n'est pas souhaitable. Et donc c'est tout simplement omettre le fait que la stratégie militaire de la France est une stratégie dissuasive. Cette menace de « si vous nous attaquez, vous pourrez nous foutre sur la gueule, mais nous on peut vous foutre sur la vôtre aussi avec nos bombes nucléaires ». André.
Oui, rappelons que la dissuasion nucléaire, la politique militaire et diplomatique créée par De Gaulle, c'est que nous nous dotons d'une arme de dissuasion nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous sommes attaqués sur notre territoire, ou si nos intérêts vitaux sont mis en cause, on peut utiliser, et nos adversaires savent que nous pouvons utiliser l'arme nucléaire, mais seulement si nos intérêts sont en cause, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas menacés, quoi qu'en dise Macron, c'est aberrant. Ni nous, ni même les Polonais, ni les Hongrois ne sont menacés par la Russie. Là. Cette guerre, ce n'est pas eux qui l'ont provoquée. Je constate les faits. C'est nous qui avons poussé à la guerre, nous les Occidentaux, les Anglais, les Français, l'OTAN, etc. Nous avons provoqué cette guerre. Nous sommes en train de la perdre, enfin bon, c'est assez clair. Et nous n'avons pas les moyens d'armer, de prolonger, d'empêcher les Russes d'atteindre leurs objectifs tactiques. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer tout le sud de l'Ukraine jusqu'à Odessa. Pour protéger les ports de la Crimée, etc., il faut qu'ils aient Odessa, ils vont avoir Odessa. Et les Ukrainiens, pour l'instant, sont incapables. Nous ne pouvons pas créer une armée de l'OTAN. Il n'y a que Macron qui parle de ça. Tous les autres pays de l'OTAN, malgré leur hypocrisie et leur soutien matériel à l'Ukraine, sont bien incapables d'aligner 200 000 ou 300 000 hommes sur le terrain. Donc ce sont des propos complètement irresponsables.
Et comme je disais récemment à une copine, toi qui veux défendre la démocratie, envoie donc tes gamins dans les tranchées ukrainiennes, ça leur fera réviser leur cours d'histoire sur 14-18. Ukrainiens, effectivement, qui vont se prendre une pilée. Hein. Il y a quelque chose d'ailleurs de très dichotomique. Depuis 2 ans, la Russie semble avoir du mal à écraser les Ukrainiens, mais on craindrait qu'ils viennent attaquer la Pologne, les pays baltes, machin. Et nous, on croirait entendre De Gaulle chantant que les troupes de l'armée rouge étaient à... deux étapes du Tour de France de nos frontières. Et puis, certes, Poutine est l'ordure, l'autocrate, le dictateur, le tout ce que vous voulez, le vilain, le mafieux, le KGB, le... Oui, très bien. Il faut dire que nous, nous sommes dirigés par des gens tellement plus vertueux. Et puis, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que ça devient compliqué de fournir les Ukrainiens en munitions et matériel à faire pampan, tout simplement parce que l'armée française en livre aussi une certaine quantité à l'armée israélienne, qui s'en sert en ce moment pour commettre un génocide. Ces propagandes qui disent que, certes, Poutine est une ordure, mais alors il n'y a rien à dire sur Netanyahou, à qui on fournit du matériel de guerre pour perpétrer un génocide. Attention les amis, attention aux propagandes de guerre, et puis on recitera hein, Paul Valéry et Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Et puis Paul Valéry, hein, la guerre est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Attention aux propagandes de guerre les amis, souvenez-vous qu'il y a un peu plus d'un siècle, les violeurs d'enfants, les méchants, les vilains, c'était les Boches, les Schleu, les Doriforts qui sont aujourd'hui devenus nos amis allemands qui sont tellement formidables. Attention à ces ennemis d'hier devenus nos amis d'aujourd'hui et inversement, attention à toutes ces propagandes de merde.
Je citerai un troisième auteur de l'époque de la guerre de 14, c'est Philip Snowden, travailliste britannique, un peu le Jaurès anglais. Et il y a eu cette formule, la première victime de la guerre, c'est la vérité.
J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corzo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, préparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé, j'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris, depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre.
On reste sur cette thématique, l'Europe et la guerre, avec ton papier, Philippe.
Papier de Pierre Rimbert, l'Europe au pas cadencé. À quelques mois des élections européennes, il y a eu un événement qui éclaire le paysage radieux de la démocratie européenne. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a refusé d'entériner un plan de 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Et en représailles, la Commission européenne a menacé de détruire son économie. S'il ne voulait pas aligner sa politique étrangère sur celle des autres pays de l'Union européenne, ces derniers s'engageraient à couper tout financement européen à Budapest dans l'intention d'effrayer les marchés, de déclencher une crise monétaire sur le forint et de faire exploser le coût des emprunts du pays. Et trois jours plus tard, le 1er février, Orban capitulait. Alors, Viktor Orban, c'est une espèce de Bardella hongrois, autoritaire, réactionnaire, anticommuniste forcené, proche de l'extrême droite, qui piétine l'indépendance du pouvoir judiciaire, le droit des minorités. Je pense en particulier aux Roms, puis aussi à tous les gens qui se pressent aux frontières en venant d'Afrique ou d'Asie. Mais le diplôme soulève un point de principe. Ce chantage à la ruine contre une Hongrie d'extrême droite pourrait être demain organisé contre un gouvernement de gauche qui prônerait un programme de rupture avec le libre-échange de l'atlantisme. Et il donne comme exemple, en 2015, l'Europe avait menacé de ne pas secourir la Grèce pour la contraindre à accepter un plan d'austérité draconien. Cette fois, la Hongrie n'a enfreint aucun traité. Bon, jadis, la Hongrie, comme la Pologne d'ailleurs, avait fait des atteintes donc aux droits civils, aux droits individuels, et elle exprimait un choix de politique étrangère. Or, la Commission européenne ne dispose d'aucun pouvoir de décision en cette matière qui relève du Conseil d'État européen, c'est-à-dire de la réunion des chefs d'État et de gouvernement qui doivent se prononcer à l'unanimité. Donc, Madame Ursula von der Leyen, elle usurpe ses prérogatives. Et en 2003, la possibilité de décider souverainement de la guerre et de la paix avait permis à la France, à l'Allemagne et à la Belgique de s'opposer à l'invasion de l'Irak contre une majorité d'États européens ralliés aux États-Unis. Désormais, aux avant-postes du bellicisme, Paris et Berlin comptent sur une forme de keynésianisme militaire combinée à l'austérité sociale, c'est-à-dire ce qui est donné aux militaires et enlevé à la sécurité sociale, à la santé, aux aides aux chômeurs, etc. Nous devons nous préparer à la guerre en Europe, a proclamé en octobre 2023 le ministre social-démocrate de la Défense allemand, en visant implicitement la Russie, venant de la représentante d'un pays qui, il y a 80 ans, a tué dans les 26 millions d'habitants soviétiques. C'est très mal vu. Et le coup de force de Bruxelles contre Budapest sonne comme l'appel au clairon, garde à vous. Et je continue avec un article qui est un peu dans la même veine, qui date de novembre 2021, et la Grèce redevint exemplaire. À l'époque, en novembre 2021, Serge Halimi disait « Athènes vient d'offrir un Noël anticipé à ses armées. 24 avions de combat Rafale, 3 frégates dernier cri, en attendant des F-35 et des hélicoptères Sikorsky, sans oublier drones, torpilles et missiles. Les officiers grecs ne seront pas seuls à la fête, puisque des groupes d'armement français, Dassault en particulier, comptent au nombre des principaux fournisseurs d'Athènes. Mais, c'était en 2015, les autorités européennes et le Fonds monétaire international, la Troïka, imposaient leur férule à la Grèce, un pays ruiné, asphyxié, ravalé au rang de protectorat. Il passait la moindre de ses dépenses à la paille de fer afin de contraindre la Grèce à rembourser une dette dont même le FMI admettait le caractère insoutenable. Encouragée par l'Allemagne, la Troïka s'était acharnée contre les dépenses sociales. Alors il y a eu une hausse des taxes et des cotisations maladie, un report à 67 ans de l'âge de la retraite dont les pensions furent amputées 14 fois, des baisses de l'allocation chômage et du SMIC de 32% pour les moins de 25 ans, des hôpitaux bondés, privés de moyens et de médicaments, etc. Mais les crédits militaires n'ont pas été soumis en Grèce, pas été soumis à une vigilance financière aussi intraitable. Leur part est passée de 2,46% du PIB de la Grèce à 2,79% en 2020, ce qui était le record de l'Union européenne. Et pour préparer la guerre, autant les Grecs doivent tenir à la paix. En réalité, ils jugent menacés par la Turquie, qui multiplie les provocations méditerranéennes, orientales, et qui, depuis bientôt 50 ans, occupe illégalement une partie de Chypre. Ce qui n'empêche pas les deux États d'appartenir à l'OTAN, ni Berlin de compter au nombre des principaux marchands d'armes d'Ankara. En 2015, lorsque le printemps d'Athènes fut écrasé par les banques européennes, le Figaro se distingua par sa férocité. Il estima que même exsangue, la Grèce, qui était un patient qui préfère gifler son médecin, devait régler rubis sur l'ongle ses créanciers. Faute de quoi, s'indignait le journal conservateur à qui la quasi-totalité des médias du pays emboîta le pas, chaque Français paierait 735 euros pour l'effacement de la dette grecque. Mais Figaro a cessé de s'inquiéter pour les créanciers européens. Pourquoi ? Nul n'oserait imaginer que c'est parce que la Grèce a eu l'idée d'orienter ses emplettes vers les arsenaux du groupe Dassault, propriétaire du Figaro. Toutefois, le happy end ne sera complet que le jour où des sous-marins turcs achetés en Allemagne couleront des frégates grecques fabriquées en France. Athènes se résoudra alors sans doute à racheter aux Chinois, à qui il a dû les vendre sur injonction de la Troïka, des ports grecs où abriter ses navires. Et le couple franco-allemand, ayant démontré sa plasticité, l'autonomie stratégique de l'Europe sera presque réalisé.
Le ministre des Finances allemand de l'époque a eu cette formule: il faut écraser la Grèce pour faire peur à la France.
L'Allemagne n'a jamais payé ses dettes de guerre à la Grèce. On a aussi dit, et ça se réalise aujourd'hui, que la Grèce était un laboratoire européen du néolibéralisme et qu'il suffisait il y a quelques années de voir à quelle sauce se faisaient bouffer les Grecs pour savoir ce qui nous attend, nous, ici. Ce qui est en train de se passer, destruction des services publics, de ce qui reste de l'école, des hôpitaux, et tout ça pour acheter des armes.
Canon à vendre, avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie, je vais sans souci, au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger. Je danse la carmagnole, y'a plus personne sur le pavé. Canon en solde.
Suite de notre spécial L'Europe et la guerre, avec toi André.
Comment est née l'Union européenne, l'Europe? Comment en est-on arrivé là, ce désastre? Et y a-t-il moyen d'en sortir de cette nasse? L'Union européenne, telle qu'elle s'est faite, c'est un désastre, à tout point de vue, dans tous les domaines, à part d'entretenir des quantités de fonctionnaires européens qui nous coûtent fort cher. Je vois pas très très bien ce que cette Europe a apporté à la France, en tout cas. D'abord, comment ce qu'il est convenu d'appeler la construction européenne est arrivé à ce point d'évolution très avancée, comme on pourrait dire, d'un camembert qui se liquéfie. Le projet initial, en fait, de ses fondateurs, il est achevé. L'Union européenne que nous avons sous nos yeux actuellement était déjà en projet dès 1945. Même certains protagonistes de l'Europe, c'est bien avant 1945. Il y a un petit livre très intéressant de Lacroix-Risse qui s'appelle « Aux origines du carcan européen » et faire monter les faits à 1900. C'est vous dire que l'histoire européenne est une vieille histoire. C'est un essai qui est appuyé sur des documents qui sont irréfutables. Bon, c'est des documents économiques essentiellement, parce que on va parler un petit peu de capitaux, de capitalisme, de grosses sociétés, etc. Parce que elle est là, l'origine de l'Europe. Alors, bien sûr, dans le discours officiel, on nous parle de ces gens idéalistes qui voulaient d'une Europe de la paix après les affres de la guerre, etc.
La guerre, grosse malheur.
Oui, c'est ça, exactement. Ah, les horreurs de la guerre. Songez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des historiens sérieux qui parlent à propos de 14-18 d'une guerre civile européenne. Peut-on dire une chose aussi imbécile? Vous avez bien compris qu'il s'agit, en parlant de guerre civile européenne, de justifier, de légitimer l'Europe d'aujourd'hui. Mais il n'y a rien de vrai là-dedans. La guerre 14-18 a été une guerre inter-impérialiste. C'est une évidence de l'histoire et c'est facile à établir. Simplement, aujourd'hui, on réécrit l'histoire. Or, il faudrait peut-être un petit peu parler de ce qui s'est passé. Bon, d'abord un petit rappel et un bilan. Aujourd'hui, où l'Europe montre son véritable visage, vous avez vu le désastre de l'Europe agricole est un désastre absolu, aussi bien sur le plan écologique, économique, social et même alimentaire. On arrive à un système où, par exemple, la France, jadis gros pays agricole, exportateur largement autosuffisant, elle importe, parce que c'est le marché, triomphe du marché libre, non faussé, etc., etc. Bon, c'est l'Europe de la retraite à 67 ans, de la liquidation des lois du travail. Souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de protéger le modèle social européen. Il aurait existé un modèle social européen qui était un modèle pour le monde entier et qu'il fallait absolument soutenir. En réalité, il y avait effectivement une chose qui existait en Europe et qui n'existait pas dans beaucoup de parties du monde. Il existait un système de protection sociale, de sécurité sociale, dont le meilleur était le système français d'ailleurs, mais enfin qui existait aussi en Angleterre, en Allemagne, etc. Ce système, aujourd'hui, il est en ruine, ou du moins... À terme, il va disparaître, hein, système de retraite, système de protection sociale, d'assurance maladie, etc.
Système, en France en tout cas, que l'on doit aux communistes.
C'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est un véritable désastre. Les services publics, la santé, l'éducation sont en ruine, littéralement en France. On privatise tout, y compris la poste, hein. La SNCF, l'EDF coupé en morceaux, l'électricité, le gaz, livré en pâture au marché. Et cette guerre... guerre absurde contre la Russie. Bref. Comment est née l'Europe ? Le projet européen achevé d'aujourd'hui. Les prémices de cette Europe naissent dans les arrangements du grand capital allemand et français, de ces deux impérialismes qui vont être à l'origine de la guerre 14-18, du grand patronat, hein, il ne s'agit pas des boutiquiers, n'est-ce pas ? C'est né sous le double patronage du grand capital et du patronat de France et d'Allemagne. Et, après 14-18, des États-Unis. Les premiers accords, des accords de cartel, d'arrangement, entre l'industrie allemande et l'industrie française. Il y a toujours eu une supériorité, d'ailleurs, de l'industrie allemande. Avant 14, c'était très net, hein, et ça va reprendre dans l'entre-deux-guerres, une supériorité de l'industrie allemande, dans tous les domaines, hein, sur l'industrie française. Ce qui fait que les accords sont un peu déséquilibrés. Alors, une chose aussi est remarquable, c'est que la guerre de 14-18 ne va pas du tout interrompre les arrangements entre les deux capitalismes. Ça va être une période d'affrontement des deux impérialismes. Et à l'issue de cet affrontement, l'impérialisme allemand est affaibli. Mais nullement l'industrie, extrêmement puissante. Alors bien sûr, les accords après 14-18 vont être très légèrement au profit, dans certains domaines, de l'industrie française. Mais ça va très très vite se rééquilibrer, en quelque sorte. Hein. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que les accords ne sont pas interrompus. Par exemple, la société De Wendel, grand maître de forge français, a des intérêts en Allemagne. Et inversement, tu as des grands trusts allemands de la sidérurgie qui ont des intérêts en France, de part et d'autre de la frontière. Il y a une partie du bassin de fer de Lorraine qui est exploitée par les Français, une partie par les Allemands, et parfois, la matière première, le minerai, passe des deux côtés. Il y a des arrangements. Il ne cesse pas pendant la guerre 14. On sait qu'il y a des marchands de canons, Schneider, etc., qui fournissent des deux côtés.
Le Canard enchaîné avait même établi que De Wendel avait demandé à l'armée française de ne pas bombarder ces aciéries qui se trouvaient en Lorraine occupées par les Allemands, lesquelles aciéries servaient à fabriquer des canons et des obus qui écrabouillaient ses compatriotes français.
Absolument, les accords ont continué et vont reprendre après la guerre. Alors moi, j'ai une petite histoire personnelle à raconter. Mon grand-père maternel était né dans l'Empire allemand puisqu'il était de Moselle. La Moselle était allemande en 1878. Bien obligé de faire la guerre 14-18 dans l'armée du Kaiser Guillaume puisqu'il était marié et avait des enfants. Donc il était obligé de faire la guerre sous peine de représailles contre sa famille. En revanche, ses deux beaux-frères sont passés en France pour faire la guerre. C'est intelligent la guerre, hein. Ah, grosse malheur. Bon, mais en fait, on peut constater que de fait, il devait avoir de l'acier fabriqué par les mêmes entreprises franco-allemandes pendant la guerre. Cette guerre atroce qui, rappelons-le, a fait 1,5 million de morts. Bon.
Pour la France.
Pour la France, on a fait pas mal pour l'Allemagne aussi. D'ailleurs, soulignons au passage, hein, Jaurès était traité d'agent du Kaiser. Il dénonçait la guerre interimpérialiste. Il était, comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont agents de Poutine parce qu'ils considèrent que cette guerre est une guerre interimpérialiste. Elle l'est, hein, au profit de l'impérialisme américain, mais enfin, c'est quand même une guerre interimpérialiste. Bravo. Bon, alors, collaboration entre les grandes entreprises de la chimie, de la métallurgie, de la chirurgie, de l'industrie mécanique, etc., de part et d'autre, d'Allemagne et de France, et ça continue après la guerre 14-18. Seulement, après 14-18, il y a intervention de l'impérialisme américain. Là, les Américains vont intervenir massivement dans l'économie allemande. D'abord, il va y avoir d'énormes investissements américain des États-Unis dans l'industrie allemande. Et c'est pour ça que les Américains vont faire pression dans les années 20 et 30 pour supprimer la dette des dommages de guerre de l'Allemagne. Avant même que Hitler soit au pouvoir, l'Allemagne ne paiera pas les réparations de guerre. Parce qu'il faut que l'Allemagne marche à plein pour pouvoir servir les capitaux des entreprises des États-Unis qui sont investies. Et donc les réparations de guerre qui se montaient à 135 milliards de marques or et qui devaient être payées jusqu'en 1958, je parle pour la guerre 14, n'ont jamais été payées. En revanche, les États-Unis ont réclamé à l'État français le paiement de sa dette. Les États-Unis étaient créanciers de la France. Donc, bon, ça s'est fait au détriment de l'intérêt français, ça c'est évident. Mais en revanche, il y a toujours eu des accords des deux côtés. Et l'industrie française était très liée à l'industrie allemande avant même la collaboration étroite de 1940. C'était des liens d'intérêt dans tous les deux. Donc, entrée en force de l'impérialisme américain et du capital états-unien pendant l'entre-deux-guerres. Et d'ailleurs, on peut souligner que le capital américain va rester dans l'Allemagne nazie. Aucune rupture. Les archives ne notent aucune rupture des affaires américaines, du capitalisme américain en Allemagne, avant 1933, après 1933, c'est la même chose. Ça se renforce même. Je crois qu'il y a eu une brève interruption, et encore du business américain en Allemagne nazie. Donc, je crois que c'est en 1943 que le secrétaire d'État américain Morgenthau demande à Roosevelt de mettre un coup de frein sur les affaires américaines en Allemagne. Mais je ne suis pas sûr qu'elles aient vraiment cessé, puisqu'il est établi qu'il y a des trusts américains qui ont fait travailler des déportés. Des grandes sociétés américaines ont fait travailler des déportés. Et beaucoup de licences. On sait par exemple que General Motors avait la licence des moteurs d'avion Messerschmitt pendant la guerre, etc. Et les accords, une quantité de sociétés américaines avec l'Allemagne.
Je crois que certains camps de concentration en Asie étaient aussi équipés de machines à calculer de marque IBM.
Les bombardements américains épargnaient BP, Shell, et on a dit que les filiales allemandes des entreprises américaines, les filiales par exemple Opel, qui est une filiale de General Motors, ou Ford, ont tourné jusqu'au bout pour la machine de guerre allemande.
Donc il y a interpénétration. Il peut y avoir en même temps concurrence entre les impérialismes et coopération et arrangement. Ce n'est pas du tout contradictoire. C'est le profit et c'est totalement cynique. 1945 arrive, mais ce n'est pas la fin des affaires. Les États-Unis vont accentuer leur investissement dans l'Allemagne et vont être à l'origine de la reconstitution de l'Allemagne. La RFA est une création de la guerre froide qui se dessine, ça se passe en même temps. L'Alliance Atlantique, l'OTAN, la création de la RFA, tout ça est presque concomitant. Il s'agit de reconstituer une Europe occidentale forte dans l'orbite américaine et contre l'URSS. L'Europe naît dans des fonds baptismaux de guerre froide. Alors il y a des artisans de cette Europe qu'on présente comme des grands héros. Robert Schuman, Jean Monnet. Jean Monnet est un agent américain. Il l'était avant la guerre, il est resté, et pendant toute la guerre et après la guerre, il a été un agent américain, c'est archi connu. De Gaulle, il voyait le drapeau américain sur son front. Quant à Robert Schuman, il est né, je crois, en Alsace, dans l'Alsace allemande. Il était avocat d'affaires, un des avocats des intérêts du capital allemand et du capital français, des grands maîtres de forge et du capital allemand pendant la guerre, les réparations de guerre, les trucs concernants, parce que la France a touché très peu de réparations de guerre de l'Allemagne. En revanche, les grandes sociétés françaises sidérurgiques ont touché des réparations de guerre de 14-18. Un des artisans de ce business, ça a été Schuman. Ensuite, après, il a été l'agent de la création de l'Europe américaine. Au départ, on a présenté ça comme, oui, les Américains voulaient un seul interlocuteur pour la distribution des crédits du plan Marshall. La bonne blague. Le désir des Américains, et c'est d'ailleurs ce qu'ils y obtiendront, c'est d'avoir un marché libre, ouvert, sans problème pour leurs capitaux, et un marché de débouchés pour leurs marchandises, parce qu'ils sont très surproducteurs. Une façon pour eux de surmonter une crise possible d'après-guerre, c'est de vendre du matériel à l'Europe. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils veulent donc une Europe américaine, une Europe anti-soviétique évidemment, c'est à ça qu'ils vont s'atteler. Alors les premiers essais de l'Europe sont des essais économiques. Vous avez parlé tout à l'heure de la CECA, Communauté économique charbon-acier. Vous imaginez bien que ce n'est pas les ministres de l'économie et des finances qui sont à l'origine du truc, ce sont les trusts, allemands et français essentiellement, mais aussi secondairement luxembourgeois, etc. Hein, il s'agit de créer une sorte de cartel de répartition des matières premières, etc., de façon à maximiser le profit entre les grandes sociétés métallurgiques, parce que là, il y a un gros marché qui s'ouvre, hein, c'est la reconstruction. On a beaucoup bousillé pendant la guerre, c'est formidable. Comme ça, c'est une très très bonne chose pour le grand capital. Et donc, on fait la CECA. Mais il va y avoir une petite anicroche dans cette construction de l'Europe américaine occidentale après la guerre. Il y a eu un projet de création d'une communauté européenne de défense, d'une armée européenne. Bien sûr, sous commandement américain. Et ça n'a pas passé. Le réarmement d'une Allemagne très fraîchement dénazifiée et très imparfaitement dénazifiée a fait peur quand même à pas mal de gens, pas seulement aux communistes, mais également aux gaullistes et aux patriotes et à tous les gens en France qui se disent « on ne va pas réarmer l'Allemagne, on vient de leur foutre sur la gueule ». Non sans mal, il faudrait à nouveau les armer, même contre les soviétiques. Le Parlement français a refusé la communauté européenne de défense. Donc, zouk, je rappelle que nos socialistes étaient pour. Hein. Rappelons quand même qu'à l'origine de la création de cette Europe, il y a deux grands partis en Europe, les sociaux-démocrates et les démocrates chrétiens. Alors les démocrates chrétiens, c'est les partis de droite qui ont été créés par les Américains après la libération. Aussi bien en Italie qu'en Belgique, qu'en Luxembourg, qu'aux Pays-Bas et qu'en France, il y a des partis démocrates chrétiens. Ils sont créés par les Américains pour récupérer la droite et avoir des gouvernements conservateurs, libéraux, contre les communistes. Et les socialistes là-dedans, ben, ils sont atlantistes aussi. Partisans de l'alliance avec les Américains, très anticommunistes aussi, et ils marchent dans tous ces trucs-là, y compris dans l'Europe qui va se créer. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, en 1957, les traités de Rome, qui est au gouvernement à cette époque-là, c'est Guy Mollet. Alors Guy Mollet a deux grandes réussites à son bénéfice. La première, c'est effectivement la création de cette Europe qui va nous faire tant de mal, et également l'aggravation de la guerre d'Algérie. Ah, j'ai oublié l'expédition de Suez. Il est vrai que les socialistes n'ont pas raté une seule guerre coloniale. L'expédition de Suez qu'on a faite avec les Anglais pour récupérer le canal de Suez. Je ferme la parenthèse. Alors donc on fait en 57 un marché commun étroit, hein, 6 pays. France, l'Italie, la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir De Gaulle. 58, De Gaulle prend le pouvoir en France. Or De Gaulle est hostile à un projet européen intégré. Il ne va pas sortir, il ne va pas briser la communauté économique européenne qui vient de se créer l'année précédente, mais il ne fera rien pour l'étendre. Il est contre toute extension de cette Europe, il la tient en suspicion.
En mai 58, Eisenhower, président des États-Unis à l'époque, est favorable à l'arrivée au pouvoir de De Gaulle. Mais il lui envoie, à lui et à Guy Mollet d'ailleurs, un émissaire qui pose la condition suivante. On soutient votre arrivée au pouvoir à condition que vous ne ruiniez pas le traité de Rome.
De Gaulle a bien compris que il ne fallait pas trop titiller les Américains, puisque cette Europe est née sous l'égide américaine. Mais De Gaulle dit, voilà, on reste à ces pays-là, on fait un axe franco-allemand, mais on n'étend pas l'Europe. Et malgré tous les cris des gens qui veulent l'Europe, De Gaulle, non, il est très méfiant.
Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, mais ça n'aboutit à rien, et ça ne signifie rien.
Et lui dit, je ne sais pas quelle langue on va parler.
Quelques espéranto ou volapuc intégrés.
De Gaulle n'avait pas complètement raison, puisque maintenant on parle en anglais, point. Donc l'Europe est née donc sous patronage étroit de l'Amérique. Alors ça s'est assez bien passé au départ. Le but était de faire un marché, où on ne disait pas communauté économique européenne, on disait marché commun. Car c'était le but. C'est-à-dire d'ouvrir les frontières progressivement, complètement les frontières, et de laisser une libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes. Ce qui n'était pas encore le cas à l'époque, il y avait encore des frontières, c'était le but, c'était de faire un marché. Et un marché commun qui s'ouvrirait aux produits américains, bien sûr, évidemment, au marché mondial. Or à l'époque, le marché mondial, c'est un marché dominé par les États-Unis et le système dollar, évidemment. Ce que ne voulait pas De Gaulle. C'est pour ça que De Gaulle était hostile, par exemple, à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché, comme en disant, bon, allez, si on fait rentrer la Grande-Bretagne avec ses liens privilégiés, avec son empire, ex-empire colonial, on fait rentrer donc la Nouvelle-Zélande, donc ça fait une concurrence et une ouverture au marché mondial qui est dommageable aux intérêts de la France, parce que De Gaulle songeait aux intérêts de la France. Bon, il y a longtemps que les collabos européistes ont pris le pouvoir et se foutent pas mal des intérêts français, on voit bien ça pour l'agriculture. Bien, prenons le cas de l'agriculture, par exemple. En 1962 est signée la politique agricole commune, le premier texte créant ce que l'on appelait la politique agricole commune. Il s'agissait de faire un marché commun agricole. La France est bien placée dans ce marché commun agricole parce que de ces six pays, c'était le pays agricole le plus puissant. Mais c'était aussi intéressant pour les autres pays parce que quel principe c'était ? C'est on ouvre les frontières à l'intérieur de cette communauté économique européenne de six pays pour les produits agricoles. Mais maintenant pour l'étranger, si l'on veut qu'on puisse exporter le blé français par exemple, il faut qu'on lui donne des aides. Comment va-t-on obtenir des aides ? Eh bien, on va taxer les produits agricoles qui viennent de l'étranger, y compris des États-Unis. C'est ce qu'on appelait les montants compensatoires monétaires. C'est-à-dire qu'avec les taxes aux produits agricoles importés dans le marché commun agricole, on permettait de favoriser les exportations de produits agricoles européens, c'est-à-dire de les aligner sur le marché mondial qui était dominé par le blé américain, le blé canadien, qui était beaucoup moins cher que le blé français à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où il n'y a plus ces montants compensatoires, ces frontières avec l'extérieur n'existent plus. Le marché est libre, non faussé, et le marché il peut venir d'Australie, du Chili, du Brésil. C'est ça qui était recherché. Je vais en donner un exemple. En 86, les deux pays ibériques, Portugal et Espagne, rentrent dans la communauté économique européenne. Bon, ils se sont débarrassés de leur dictature et ils sont propres à rentrer, ce sont devenus des démocraties. Mais ces pays avaient des accords privilégiés pour l'importation de soja pour leur élevage. C'est-à-dire qu'ils importaient d'énormes quantités de soja aux États-Unis. Eh bien, ils ont été obligés de garder ces trucs-là. Ils n'ont pas pu dénoncer ces trucs. Ils ont gardé ces accords d'importation privilégiés avec les États-Unis pour rentrer dans le marché commun. C'est vous dire qu'en fait, le but recherché était l'intégration de la production agricole européenne dans le marché mondial, c'est-à-dire en concurrence avec le marché américain, ce que souhaitaient les Américains, parce qu'en tout cas, pour ces produits-là, ils étaient très favorisés, les Américains. Regardez aujourd'hui la panique que provoque l'entrée sauvage de l'Ukraine dans le marché commun agricole. C'est désastreux parce que les agriculteurs, pas seulement en France, hein, en Pologne, en Allemagne, etc., se sentent agressés littéralement par l'arrivée, le dumping commercial de l'Ukraine. Donc, j'ai voulu rappeler un petit peu dans quelles conditions est née cette Europe. Parce que l'accélération, c'est à 92, c'est avec Maastricht, l'accélération de l'intégration avec la création d'une unité monétaire commune, toujours sous l'égide des socialistes. Hein. Le commissaire de Bruxelles, Delors, est un socialiste. Hein. Bon. Vous savez aussi qu'en 2005, il s'était agi de proposer aux peuples d'Europe une constitution européenne qui, là, est une intégration fédérale de l'Europe avec fonctionnement tel que fonctionne l'Europe aujourd'hui. Il y a eu un référendum en France. Ce référendum a donné une majorité pour le non à la Constitution européenne. Très nette majorité. Il y a eu une campagne, une vraie campagne et une vraie participation. Et là, les gens ont dit non, nous ne voulons pas de cette Europe libérale, nous ne voulons pas de cette Europe capitaliste. Eh bien, dans tous ces pays, y compris la France, où le peuple s'était prononcé contre, on s'est assis littéralement contre. L'Europe démocratique, ça a commencé quand même mal. Ça a commencé par un déni de démocratie. Total. Vous n'êtes pas d'accord ? Le traité de Lisbonne, c'était 2 ans après, oui, on a fait passer ça. Je rappelle quand même que les députés français socialistes, en majorité quand même, hein, ont voté, avec la droite, hein, ont voté pour s'asseoir sur la décision du suffrage universel. Ils ne feront plus jamais de référendum. Ça y est, on est dans la nasse, il y a des clapets de non-retour, en théorie. Hein. C'est aussi ce qui était scandaleux dans la Constitution européenne, c'est que c'est une constitution indiscutable. Les règles du marché, c'est-à-dire que les choix économiques les plus fondamentaux faisaient partie, c'était indiscutable. On est dans une Europe capitaliste, libérale, de marché, libre et non faussée, et c'est indiscutable. Et si vous n'êtes pas d'accord, il y a des tribunaux, il y a des sanctions, c'est-à-dire qu'un pays qui contreviendrait en quelque sorte au dogme libéral d'Europe se verrait sanctionné. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus grave, c'est que même en politique extérieure, il n'y a même plus de souveraineté. Donc, le résultat de cette constitution, c'est qu'il n'y a plus de souveraineté nationale. Que veut dire le mot souveraineté? Ça veut dire le pouvoir du peuple par le suffrage universel. La seule condition de la démocratie, si le peuple veut être maître de son destin, il faut qu'il soit libre de choisir. Pour ça, il faut qu'il soit souverain. Le peuple est roi. Donc les gens qui aujourd'hui parlent de souveraineté européenne, ce sont des escrocs. Il n'y a pas de souveraineté européenne. Ou alors ça voudrait dire qu'il y a un parlement élu au suffrage universel et que ce parlement soit souverain, c'est-à-dire ait le droit de légiférer et de surveiller l'exécution des lois. Il en est loin, on en est loin, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'institution démocratique en Europe, il y a un parlement qui ne sert à rien. D'ailleurs, je conseille aux gens de ne pas aller voter parce que c'est une fumisterie, parce que présenter un programme politique en sachant que c'est pas en France que se fait la loi, c'est pas en France que se vote le budget, les choix économiques, sociaux, fondamentaux ne sont pas faits en France. Je rappelle quand même pour mémoire que, concernant les retraites, avant le coup de force de Macron, la décision a été prise au niveau de l'Europe. Il s'agissait de supprimer cet odieux système de sécurité sociale français de façon à ne pas servir de modèle, par malheur, aux autres pays d'Europe. Il fallait donc le supprimer en quelque sorte. Je rappelle aussi que le projet, c'est retraite à 67 ans. Hein. Voilà, pour les gens qui auront encore quelques illusions sur la bonté de l'Europe d'aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes condamnés. Peut-on en sortir autrement que par un référendum qui n'aura plus jamais lieu puisque la démocratie est interdite dans les institutions de l'Europe? Oui, je pense qu'on peut quand même s'en sortir, on peut dénoncer ces traités, reprendre la souveraineté. C'est pas simple, hein. Il va y avoir de la bagarre. Vous imaginez les gens qui sont maintenant au pouvoir, renforcés par les institutions européennes. Parce que des salopards comme Macron se servent des institutions européennes pour renforcer leur propre pouvoir. Tous les gouvernements conservateurs d'Europe se servent de... sauf la Grande-Bretagne. Le conservatisme en Grande-Bretagne se sent assez fort pour se maintenir au pouvoir sans avoir besoin des institutions européennes. Mais en dehors de la Grande-Bretagne, qui n'est pas partie pour des raisons démocratiques, hein, qui est partie pour des raisons de liberté libérale, et puis je pense qu'ils ne supportaient plus l'autorité de l'Allemagne, qui est le pays dominant en Europe. On a une Europe qui est fabriquée par les Américains et qui est partiellement dominée par l'Allemagne. L'Allemagne est le vassal le plus puissant des États-Unis en Europe. Donc nous sommes des sous-vassaux, nous. Nous devons hommage à l'Allemagne fédérale qui... Donc l'Europe est une machine à détruire les États et à détruire les nations, de façon à faire un espèce de grand ensemble qui en fait est un grand marché, dominé par l'oligarchie et les grands trusts, et sur le plan diplomatique et militaire, par les Américains. Alors il y a plein de procédés pour détruire les États, hein. Macron est un champion pour ça, hein. Il n'y a plus de corps diplomatique en France. Il faudrait peut-être dire aux gens qu'il n'y a plus de diplomates en France. Maintenant, Macron peut... nommer son coiffeur ambassadeur de Moldavie ou de...
Pour illustrer ce que tu dis, André, hein, le mépris que Macron a pour la diplomatie et les diplomates, donc c'est son copain Séjourné qui a été allumé par le Canard Enchaîné, c'était au mois de janvier, je résiste pas au plaisir de vous lire le petit papier trouvé dans le Canard Enchaîné. Fraîchement accueilli au Quai d'Orsay, où d'anciens glosent sur sa nomination népotique et son inexpérience diplomatique, Stéphane Séjourné, donc, qui est donc devenu ministre des Affaires étrangères et puis des relations avec l'Europe, Stéphane Séjourné a aggravé son cas avec ses premières déclarations à Kiev, pas tendre pour la syntaxe. Ouvrez les guillemets. Donc c'est Séjourné qui parle. C'est en Ukraine que se joue la défense des principes fondamentaux du droit international. C'est pas moi qui décidera personnellement. Ce sera l'occasion de voir pour nous ce qu'ont besoin les Ukrainiens. Donc voilà ce qui représente la France et la francophonie dans le monde désormais. C'est dire tout le respect que la Macronie a pour la diplomatie. Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette séance de vitupération avec les copains profs d'Histoire Géo. Émission à retrouver sur notre site. Polémix et lavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé. Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.